France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Si vous avez couru, vous qui avez la chance d'avoir un travail pour finir à temps et ne pas ramener quoi que ce soit à faire à la maison pendant ce jour de Noël, j'en connais pour qui c'est raté déjà et qui corrige des copies. Si vous avez couru pour faire des cadeaux à la dernière minute, déballés en 8 secondes. Si vous avez couru pour emmener les enfants à droite, à gauche avec les nouvelles trottinettes, ça va durer toutes les vacances. Si vous avez un pot prévu ce soir chez des copains, si vous avez des choses à préparer pour la rentrée de janvier, des papiers en retard, si vous avez un dîner entre deux fêtes, si vous avez des réservations à prendre pour un week-end, ce soir on arrête tout. Ce soir on ne fait rien, mais alors rien de rien, même pas deux fois rien ou trois fois rien, comme dirait Raymond Devos, parce que c'est déjà trop de rien, on ne fait rien comme rien. Ce soir on rend hommage aux glandeurs, aux glandouilleurs, aux feignants, aux indolents, aux oisifs, aux flemmards, aux contemplatifs, à ceux qui regardent tomber la pluie, à Gaston Lagaffe, au Doud des frères Cohen, à Garfield, cet imbécile de chat. Et surtout, on va apprendre à ne rien faire, parce que ne rien faire est plus qu'un art. C'est une rébellion, c'est une insurrection, c'est une désobéissance, c'est un refus face à toutes les injonctions professionnelles et sociales. C'est se fondre dans le temps qui passe, se fier au hasard, ne rien préparer, ne rien prévoir. Ce soir, avec nos invités, j'ai d'ailleurs emprunté une partie de cette introduction à l'un d'eux, avec nos invités, nous allons donc rendre hommage au ne rien faire, au rien fairiste, au rien férologue, au rien faire addict. À vous de nous raconter ce que vous faites quand vous ne faites rien et en quoi pour vous il n'y a rien de mieux que de ne rien faire, un acte ultime donc de résistance. On est parti pour une émission de rien.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier rien du soir, c'est vous, Vincent. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et soyez le bienvenu, Vincent.
Je vous remercie. Et joyeuse fête à tous.
Et bien, joyeuse fête à vous aussi. Allez-y, on vous écoute. À moins que vous n'ayez rien à dire, ce qui serait concept et en même temps compliqué pour nous.
Exactement, j'aurais bien laissé un petit rien pour commencer. tout simplement, j'appelais pour parler d'un mot qui m'est cher, la liberté. Et lorsque je ne fais rien et je passe pas mal de temps à ne rien faire, ben j'ai l'impression d'être, je ressens cette liberté. Dans une société de consommation où tout va très vite, où les gens disent et contredisent. Lorsque je passe du temps tout seul, j'ai l'impression de faire justement tout ce que les gens n'ont plus le temps de faire, c'est-à-dire rêver, contempler, regarder ce qui est autour de moi. Et peut-être que l'essentiel est là.
Et Vincent, est-ce qu'on vous secoue autour de vous en vous disant « arrête de ne rien faire » ou au contraire, vous avez réussi à être contagieux pour vos proches ?
Alors pas directement parce que j'ai un mode de vie je suis encore assez jeune mais je suis célibataire et donc j'ai pas tellement de compte à rendre.
Le rien est un luxe.
Ouais. mais cela dit les gens autour de moi voudraient sans doute que j'en fasse plus. En tout cas les gens nous incitent souvent à ça. Mais moi je m'arrange, je choisis en tout cas d'avoir du temps. Du temps seul, du temps pour moi en fait.
Et merci beaucoup Vincent. Profitez de votre rien pour nous écouter aussi. On va d'ailleurs demander à nos invités ce qu'on peut faire en même temps qu'on ne fait rien parce que tout ça est parfois un peu compliqué. Bonsoir Thomas Baumgartner.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez écrit « Ne rien faire » aux éditions Kéro. Une méthode approximative et contradictoire pour devenir paresseux sans trop se donner de mal. Vous donnez des quelques clés aussi et on y viendra parce que vous allez nous expliquer peut-être si Vincent est un bon faiseur de rien en fait. Bonsoir Patrick Lemoine.
Bonsoir Fabien Sintès.
Psychiatre, vous êtes docteur en neurosciences. Vous avez notamment écrit « La santé psychique de ceux qui ont fait le monde ». C'est aux éditions Odile Jacob. Vous avez écrit aussi, c'était il y a un peu plus de temps, « S'ennuyer, quel bonheur ». C'était chez Armand Collin en 2007. J'ai envie de vous poser la question à tous les deux. Thomas Baumgartner, est-ce que c'est un bon rienfaiseur, Vincent ? Comment on fait pour être un bon rienfaiseur ?
Et il a mis le doigt sur quelque chose d'important, qui est les questions de la liberté. Je pense que c'est la liberté de son propre temps. Ne rien faire, c'est se mettre de côté et résister, effectivement. C'est résister à des injonctions, à un regard social. C'est résister à ce qu'on attend de nous aussi et ce que ça peut avoir de éventuellement culpabilisant, par exemple. C'est ça. Et en même temps, se faire confiance à soi-même sur ce qu'on peut faire de son temps quand on ne nous pointe pas du doigt ce qu'on doit précisément en faire aux yeux et au nom des autres.
Et alors il le dit d'ailleurs, parce que quand je lui pose la question de son entourage, il est célibataire, il est encore jeune, c'est un luxe au fond, le rien. Quelque chose qu'on ne peut pas se permettre peut-être à toute période de la vie, ou en tout cas dans des moments plus faciles comme celui de Vincent, c'est plus Ça a l'air plus simple.
Oui, c'est déjà de se poser la question de travailler ou ne pas travailler,
par exemple,
ou travailler autrement, c'est une forme de privilège, c'est sûr. Il faut pouvoir se poser, ne serait-ce que se poser la question et l'envisager. Après, c'est effectivement peut-être une question de préparation, d'organisation, d'avoir ça comme objectif, de là à mettre ne rien faire sur sa to-do list, il n'y a qu'un pas.
Absolument, bah surtout pas de to-do list alors.
Voilà.
Patrick Lemoine, en vous lisant, je me suis rendu compte que vous disiez parfois que vous prescriviez des minutes d'ennui, notamment à ceux qui travaillent trop, ceux qui sont en burn-out, etc. C'est plus qu'un apprentissage, c'est quelque chose à apprivoiser. Je dis ça très sérieusement, le fait de ne rien faire.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que être vivant signifie avoir des cycles, c'est-à-dire une alternance d'activité et d'inactivité. On ne peut, que vous soyez un géranium chez votre concierge, que vous soyez une bactérie, que vous soyez un chimpanzé ou un être humain, vous êtes obligé d'avoir une alternance repos-activité. Si vous êtes tout le temps dans l'activité, en fait, vous n'êtes pas vraiment vivant et surtout, vous ne pouvez pas être créatif. La créativité, sa condition, c'est d'alterner des périodes de ne rien faire, d'ennui profond même, avec des périodes de bonne activité et de créativité.
Pour moi,
le bonheur, et après le mot liberté, le mot bonheur me vient à l'esprit, repose justement sur la capacité de ne rien faire qui alterne avec des périodes de faire.
Mais Patrick Lemoine, psychiatre que vous êtes, pourquoi on a peur, au fond, de ne rien faire? Pourquoi on a l'impression que c'est un vertige et qu'on tombe dans le vide?
C'est une très très vieille histoire. En fait, ça remonte à Martin Luther, au protestantisme, qui luttait contre l'assédie, c'est-à-dire la paresse des moines dans les couvents, cette paresse qui les empêchait de prier Dieu. Et il y a eu une bagarre entre les catholiques et les protestants. Les catholiques étaient assez tolérants, vous savez, c'est des latins, il y avait la sieste, on pouvait glander un peu. Et puis les protestants, time is money, faut faire. Martin Luther, il y a des phrases extraordinaires où il dit, faut manger, faut boire, faut courir les filles, faut jamais rien, rester sans rien faire. Et le monde anglo-saxon a quand même tendance à prendre le dessus. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas très bien vu de glander. Et pourtant, je crois que c'est une grande erreur. La bonne santé, j'insiste, le bonheur repose sur des périodes de rien faire.
Thomas Baumgartner, Amélie sur franceinter.fr nous dit avec beaucoup d'humour qu'elle peut pas appeler dans notre émission parce qu'elle est trop occupée à dormir. Mais en vous lisant, j'ai compris que dormir n'a rien à voir avec ne rien faire et être dans le silence non plus. En fait, pas de sommeil et pas de silence pour ne rien faire correctement.
Dans cette vraie fausse méthode, j'essaie de faire le tour, oui, des différentes vraies ou fausses évidences liées au ne rien faire et dormir, évidemment. Tout le monde est appelé à dormir. Il y en a qui ont plus de mal que d'autres, peut-être pour des raisons biologiques, mais il y a quand même un besoin de dormir qui est partagé. Donc, je considère dans ce livre que ne rien faire n'est pas dormir. Par contre, ne rien faire, c'est se rendormir. Donc la grasse matinée entre dans le champ qui nous occupe ce soir,
aussi.
Et la sieste aussi, évidemment.
Allez, Yvon nous appelle d'Auxerre. Bonsoir Yvon.
Bonsoir,
soyez
merci
le bienvenu.
D'avoir pris mon appel. Toute la semaine, on a un rapport avec le travail et l'argent. Et puis, il arrive un moment où on ne fait rien. Mais rien faire, n'est-ce pas vivre ses rêves et ses passions? N'est-ce pas, par exemple, lorsqu'on écoute un 33 tours de Coltrane ou des Beatles, c'est pas s'enrichir, ou lire un bon livre, ou faire son jardin, ou faire sa cuisine, ou tout simplement gratter une guitare, un piano, ou le plus important, rêver à l'être aimé. Et tout ça, ça nous enrichit. Cet après-midi, c'est Noël, je fais rien, je suis en train de traduire un livre anglais en français. Je fais rien, mais j'ai beaucoup de plaisir. Donc, est-ce que la vie, c'est pas avoir des rêves, avoir des passions, des envies, et à la limite, il faut pas plaindre les gens qui n'ont pas ça.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Yvon. Moi, j'aime bien Thomas Baumgartner, Yvon, qui nous explique qu'il ne fait rien alors qu'il est en train de traduire un livre. Il y a des fois où on a, tant que ça n'est pas un travail, c'est considéré comme un rien, mais c'est un magnifique rien très enrichissant, en fait. Il y a plein de rien, au fond.
Oui, il y a plein de rien parce que c'est des questions d'engagement, engagement personnel, de vision sur ce qu'on est en train de faire, qu'on peut considérer être ne rien faire si on échappe. Il y a la question de, justement, faire autre chose que ce qui est attendu de nous. Il y a une série en ce moment de Guillaume Podrovnik sur Arte qui s'intitule sur la procrastination, qui est une manière de une des manières de ne rien faire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est faire, c'est bien faire, mais pas du tout ce qu'on attend de vous, et plutôt même dans une forme d'évitement qui peut devenir quelque chose d'assez, d'assez foisonnant et d'assez enrichissant.
Patrick Lemoine, quand j'entends les témoignages jusque-là, je me rends compte aussi que tout ça parle de solitude. C'est-à-dire qu'on est bien dans ce rien, dans cet ennui volontaire que lorsqu'on est solitaire. Est-ce que c'est ça aussi peut-être notre grande crainte finalement quand on arrête de tourner? C'est qu'on a l'impression d'être tout seul.
Oui, mais moi je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut ne rien faire à plusieurs, qu'on peut glander de manière
collective.
Vous savez, le mot glander vient du fait que les jeunes, autrefois au Moyen-Âge, quand on emmenait les cochons manger les glands, donc à la glander, garder des porcs, c'est pas très actif, et donc on glandait. Et je pense que c'est une belle métaphore. Vous savez que France Inter, c'est une radio, je crois que vous connaissez, avait un très très beau slogan qui était « Qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous ». D'ailleurs, je salue au passage la constance de votre chaîne. Et donc, vraiment, ne rien faire, ça peut être seul, ça peut être un groupe, mais je conteste aussi le fait de dire que ne rien faire, c'est faire autre chose que son travail. Non, ne rien faire, c'est rien faire. Mais j'insiste aussi sur le fait qu'on ne rien faire tout le temps, c'est pathologique.
Mais est-ce que c'est un mot?
C'est la dépression, c'est la psychose, c'est un vieillard dans un EHPAD où il s'ennuie profondément. Ça, c'est pas souhaitable. Parce que, en effet, moi je suis d'accord, je crois que c'est Vincent qui l'a dit au début, ne rien faire c'est être libre, j'accepte de ne rien faire, j'accepte de m'ennuyer, parce que je sais que je suis libre d'en sortir quand je veux.
Est-ce que
c'est ça le secret.
Est-ce que c'est cette incapacité, cette difficulté à l'ennui au fond, est-ce que c'est un mal du 20e et du 21e siècle, Patrick Lemoine? Est-ce que avant, au fond, on s'ennuyait plus et on trouvait ça formidable? On ne faisait rien plus facilement?
Je crois, vous savez, Jean-Jacques Rousseau, avec ses rêveries du promeneur solitaire, c'est un peu le plus beau chantre qu'on ait jamais eu, justement, de l'ennui, du ne rien faire. Mais en même temps, c'est un ennui tellement délicieux. L'ennui, c'est l'enfance. Hein. Moi, je me suis beaucoup ennuyé dans mon enfance parce que j'étais tout seul à la campagne. Étant fils de notable, j'avais pas le droit d'aller avec les petits paysans du coin. Mais en même temps, je garde une nostalgie de cet ennui de mon enfance qui est absolument délicieuse. Parce que j'en suis sorti, j'en ai la liberté, je peux y retourner quand je veux. Vraiment, je crois que je suis quelqu'un d'assez actif, mais si j'ai une toute petite créativité, c'est bien parce que de temps en temps, je me pose, je m'ennuie, je glande, je ne fais rien, même pas méditer. Et je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, dormir, c'est pas ne rien faire. Je suis un spécialiste du sommeil, vous le savez sans doute, dormir, c'est un processus finalement très actif, où il se passe des tas de choses. Donc ce n'est pas ne rien faire. Rien faire, c'est rien faire.
Thomas Baumgartner, il nous dit, Patrick Lemoine, il s'ennuyait beaucoup dans son enfance. Est-ce que c'est chez vous que j'ai lu que Einstein s'ennuyait aussi terriblement dans son enfance, donc preuve que finalement ça peut mener à quelque chose?
Je crois pas que je l'ai mis dans le livre, mais c'est vrai que bon, il paraît qu'Einstein a parlé ses premiers mots à l'âge de, c'était vers 4 ans, donc ses parents s'inquiétaient un petit peu de savoir s'il était un peu ralenti. Il avait pas envie, c'était peut-être aussi une expression de l'ennui par rapport à la possibilité de parler, mais je crois que par rapport à l'action de l'époque, c'est surtout qu'on a la possibilité aujourd'hui de se poser la question, on va dire, qu'on entre dans une période où il est intéressant de se poser cette question-là, qui a une sensation effectivement d'accélération, qui a été étudiée, qui est, il y a un ressenti d'une multitude de stimuli contemporains dont on pourrait d'une part avoir la sensation qu'ils nous mettent simplement à l'écume des choses, et d'autre part dont on peut avoir la volonté d'en sortir au moins temporairement. Donc ça peut-être, cette sensation, ce ressenti fait qu'on fait du ne rien faire, sinon un objectif ou un idéal, en tout cas une possibilité qu'on souhaite s'offrir, ça oui.
Mais souvenez-vous, à une époque qui est pas si lointaine, à l'élection de François Mitterrand, avec ce ministère
du temps libre,
On a l'impression que c'est très très loin, tout ça, ça ne nous viendrait même pas à l'idée, une chose pareille aujourd'hui, alors qu'au contraire, on est aussi en train de revenir à ralentir le rythme, on parle de revenu universel, on y viendra parce que vous l'évoquez aussi dans votre livre, enfin... On est peut-être revenu aussi à cette espèce d'idéal de ce début des années 80 qui s'est écroulé très vite, hein, parce que dès le milieu des années 80, c'était fini, il fallait être un Wonder Boy. Donc
mais qui a une histoire, c'est celle de la diminution du temps de travail, du temps de travail nécessaire, les machines qui peuvent remplacer les êtres humains, qu'est-ce qu'on en fait? Et déjà, Paul Lafargue, dans Le droit à la paresse à la fin du 19e, en parle. Bertrand Russell, philosophe, dans les années 30, fait un livre qui a été un éloge de l'oisiveté, et il dit, voilà, on va arriver bientôt, il faut qu'on y arrive à une société où on va travailler 4 heures par jour, que faire du reste de ce temps? Et c'est ça qu'il faut penser. Bon, c'est un livre qui est paru en 32. Il y avait d'autres choses qui se passaient. L'écho de ce type de propos est compliqué dans l'histoire. Et il y a des moments où on peut se reposer cette question-là. Étonnamment, ce type d'émancipation est moins porté politiquement, mais ça reste une question qui se pose au niveau de la société.
Arnaud, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Arnaud. On vous écoute.
Merci. Bah, écoutez, moi, le sujet m'a particulièrement inspiré. Moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Oblomov de Gontcharov, qui est vraiment une éloge d'un personnage oisif. Et je me suis jamais autant identifié que ce style de personnage. Et ça a évolué, ma vision vis-à-vis de ne rien faire, ça a évolué tout au long de ma vie. Mais quand j'étais gosse, je m'en rendais peut-être pas compte, mais j'adorais rester sans rien faire, observer. En fait, c'est observer le monde qui tourne autour de soi, ça permet de se détacher plus de soi, je trouve, que d'être sans arrêt dans l'action. J'ai vraiment du mal à comprendre les hyperactifs qui ont besoin de tout le temps agir. Moi, je trouve ça génial, vraiment, ça me détache de moi-même, de l'action, de pas produire, de voilà, un feu. Moi, j'allume les feux par au-dessus et je regarde les flammes s'insinuer entre les petits bouts de bois du dessus avec les grosses buses du dessous. Ça fait un spectacle magique, ça dure une heure et c'est fantastique. Voilà.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Arnaud. Thomas Mumkartner, est-ce que vous avez déjà allumé un feu par au-dessus pour regarder le feu s'immiscer? J'ai l'impression d'entendre Alexandre le Bienheureux en écoutant,
oui,
Arnaud.
Oui, il y a de ça. C'est vrai, c'est l'exercice de la contemplation qui n'est pas l'ennui, hein, qui est celui de la contemplation du monde, de la contemplation des choses, qui sont peut-être effectivement liées plus naturellement à l'enfance. Les autoriser, c'est peut-être ça que ça signifie, ne rien faire. La question de s'autoriser face au regard social, c'est une chose qui est un pas à franchir, effectivement, si on veut aller un pas à franchir de côté, on va dire, voilà, pour continuer à décliner les différents modes de ne rien faire. La contemplation en fait partie, les nuages aussi, par exemple.
Patrick Lemoine, on parlait tout à l'heure des siècles où on avait du mal à s'ennuyer, où ce mal nous était arrivé. Moi, j'ai une autre interrogation. J'aimerais savoir si cette idée, cette difficulté avec le ne rien faire est purement occidentale, en fait. Est-ce qu'on a un problème avec le ne rien faire quand on est né quelque part, quand on est un Inuit dans le Groenland, ou quand on est né quelque part dans la brousse, qu'on a un mode de vie complètement différent? Est-ce que c'est nous qui avons créé cette peur du ne rien faire?
Alors, il faut comprendre que tous les peuples qui vivent en rythme avec la nature, je sais pas, on va dire au fin fond de l'Amazonie ou bien en Afrique, ces peuples donc qui sont pas du tout urbanisés, ouais, qui sont plus proches des cueilleurs-chasseurs, le mot ennui n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est impossible de s'ennuyer parce qu'on est tout le temps en prise avec la nature. Comme un jaguar ou un chat qui va guetter pendant des heures et des heures une souris, on peut supposer qu'il s'ennuie pas. En revanche, le même chat, si on le met dans une cage étroite, il va commencer à développer des mouvements répétés qu'on appelle des stéréotypies, qui sont la marque de l'ennui animal. Donc on peut dire que l'ennui a été créé par la sédentarisation, par le fait que nous sommes devenus des citadins avec une technologie, et que pendant très longtemps, puisqu'on était en société, il fallait donc que chacun travaille pour les autres, eh bien ne rien faire était très sévèrement réprimé. On ne doit pas oublier qu'autrefois c'était très mal vu de ne rien faire. N'oubliez pas, l'oisiveté est la mère de tous
les vices. C'est vrai.
Et oui, et si vous reprenez l'argot, qui est très intéressant souvent pour comprendre les choses, j'espère ne choquer personne, mais quand quelqu'un ne fait rien, on dit, mais t'as donc rien à branler.
Oui, on voit bien où vous nous emmenez.
Il faut savoir que ne rien faire risque de mener au pire de tous les péchés aux yeux de l'Église, c'est la masturbation. Et l'ennui, donc la lutte contre la masturbation, est passée justement par la lutte contre le ne rien faire, dont les protestants, donc plus que les catholiques, étaient les champions. Et maintenant, on peut dire quand même que d'une certaine manière, et je suis content qu'on ait parlé d'Alexandre le Bienheureux, mais pour en revenir à Mitterrand, qui avait fait effectivement le ministère
du
temps libre, mais lui-même avait dit, moi la présidence c'est à mi-temps, j'ai besoin de la moitié de mon temps pour ne rien faire, pour penser, pour réfléchir à l'autre mi-temps, parce que je crois qu'il avait vraiment tout compris de ces affaires-là lui-même.
Tiens, j'ai un internaute là sur le hashtag Telson qui nous veut nous redonner cette phrase de Robert Louis Stevenson qui dit « L'oisiveté ne consiste pas à ne rien faire, mais à faire beaucoup de choses qui échappent à la classe dominante. » Thomas Baumgartner.
Oui, il y a sans doute une manière, oui, d'échapper à ce que, pour être clair, une direction peut attendre de vous, un patron peut attendre de vous. C'est la question de ne rien faire. Et évidemment, en premier lieu, ce qui vient en tête, c'est la question du travail. Et garder ce libre arbitre, c'est aussi être disponible à soi-même et donc échapper à ce qu'on attend de vous, échapper au pain sur la planche, quoi, grosso modo. Et c'est prendre cette distance-là, effectivement, prendre une distance. Et sous-entendu la possibilité de la critique de cette direction-là.
Bonsoir Karima.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Karima.
Merci beaucoup et joyeux Noël.
Joyeux Noël à vous aussi.
Je voudrais vous remercier pour la qualité de vos émissions. Je vous suis quasiment toute la journée.
Ben, merci beaucoup, vous avez bien raison. C'est une bonne manière de ne rien faire. Allez-y Karima.
Ben, moi je voudrais vous faire part de ma difficulté à ne rien faire en fait. Chaque veille d'une nouvelle journée, je prépare mon agenda et ma liste des tâches et des activités à faire. Et après, quand il m'arrive de sortir un peu de ce cadre-là, ben, j'ai un sentiment de culpabilité. Et j'ai remarqué, même pendant les vacances, ben, c'est comme si c'est impossible pour moi de ne rien faire.
Mais du coup, qu'est-ce que vous faites, par exemple, Karima? Quand techniquement vous n'avez rien à faire, puisque il n'y a pas le travail et que là on est le 25 décembre, qu'est-ce que vous faites?
Ben là, aujourd'hui, j'ai été marcher une heure au bois de Vincennes. Et après, ce matin, j'ai préparé des cartes de bonne année à envoyer. Et en fin de journée, ben voilà, je me suis dit, ah, il y a une liste de mots que je devais chercher dans le dictionnaire. Et après, je voulais aussi regarder un film que j'ai prévu. Et après, je me suis dit, mais à un moment donné, il faut s'arrêter quand même. Il faut s'arrêter et rester calmement et ne rien faire. Mais ça, c'est vraiment, à la fin, j'ai un sentiment de culpabilité.
Merci beaucoup, Karima, voilà. pour votre témoignage. C'est marrant, vous avez fait du marché au bois de Vincennes. Moi, j'ai appris à faire du vélo au bois de Vincennes, comme quoi, vous voyez. C'est vrai que c'est compliqué de ne rien faire, Thomas Baumgartner, parfois. J'entends la culpabilité dont parle Karima, y compris d'ailleurs les jours où il ne travaille pas. C'est aussi une manière de se structurer, en fait, d'avoir envie de faire une liste. Ça rassure terriblement, en fait, non?
Mais d'une certaine manière, votre auditrice a déjà fait la moitié du chemin.
Parce qu'elle le sait.
Elle le sait, bravo, d'une Karima. Part. Et ce sont ses propres injonctions. Donc elle fait une marche au bois de Vincennes, elle va regarder un film, voilà, elle ne subit pas. Elle subit peut-être une injonction intérieure, quelque chose qui a été construit avec le temps et peut-être aussi par la société. Mmh. Donc ça, ça rejoint notre propos. Mais elle a déjà fait, on va dire, une partie du chemin.
Mais Patrick Lemoine, est-ce qu'il y a un danger parfois à avoir peur de ne rien faire, avoir peur de l'ennui? Est-ce que c'est ça qui provoque un certain nombre d'addictions? On s'ennuie donc, pardon, mais on boit, on s'ennuie donc, je sais pas, on prend de la drogue, on s'ennuie donc on passe 15 ans sur Assassin's Creed pour PS4.
Oui, je suis content que vous abordiez cette question-là parce qu'effectivement, la peur de l'ennui qui est le propre de l'adolescence, on voit que les adolescents passent finalement leur vie à lutter contre cette peur de l'ennui et je pense que les conduites à risque, comme James Dean par exemple, vous savez, quand il va tout à l'heure
avec ses voitures, hein, c'était ça, voilà,
dans la fureur de vivre, il lutte contre l'ennui en se mettant en danger. Et évidemment, la drogue, les conduites d'urbex, ces gamins qui vont dans les squats et qui sautent de toit en toit, tout ça, c'est pour lutter contre l'ennui. Le binge drinking, toutes ces conduites-là sont à risque. Mais quand j'avais écrit ce bouquin, j'avais fait une enquête de plusieurs dizaines de personnes, des garçons et des filles, et j'avais été frappé de voir à quel point, chez les filles, il y avait une culpabilité à ne rien faire qui était beaucoup plus importante que chez les garçons. Probablement la pression culturelle, mais il y avait vraiment un genre de l'ennui. Et je m'étais dit à l'époque, finalement, quand on regarde bien, parmi les activités traditionnelles, que ça change à toute allure, tout ça, Dieu merci, mais les activités traditionnelles des filles leur permettent d'occuper leurs doigts à des trucs qui prennent pas la tête. C'est-à-dire quand vous tricotez, quand vous cousez, bah, vous pouvez en même temps regarder la télévision, faire d'autres choses. Alors que les mecs, bah, finalement, ils peuvent bricoler. Je suis toujours dans le cliché. Ils peuvent bricoler.
J'allais dire, parce que moi, personnellement, je n'ai jamais tricoté ni même rien recousu. Mais...
C'est pour ça que je dis que je suis dans le cliché, dans les activités traditionnelles et que Dieu merci, tout a changé. Mais d'abord, j'ai écrit ce bouquin il y a une quinzaine d'années, donc c'était un peu plus vrai. Mais la répression sociale vis-à-vis des filles, à mon avis, contre le ne rien faire, est beaucoup plus forte que contre les garçons. Toujours dans le cliché, finalement, c'est la double journée de la femme qui, une fois rentrée du boulot, s'occupe des enfants, de la cuisine et tout, pendant que le mec s'affale sur le canapé avec ses pizzas et ses bières. C'est du cliché, encore une fois, mais on sent que dans cette répression sociale, c'est très dur pour une femme de ne rien faire. C'est pour ça que Karima doit être vraiment doublement félicitée.
Eh ben, bravo, Karima. Il y a une chose, Thomas Baumgartner, dans votre livre, moi, qui m'a vraiment intéressée. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent effectivement donc parfois de leur culpabilité. C'était le cas de Karima. Vous, vous dites qu'il faut manifester notre rien-faisance. C'est-à-dire qu'il faut montrer qu'on ne fait rien, en fait.
Oui, alors il faut le...
Savoir être à contre-courant.
Il faut savoir être à contre-courant. Enfin, c'est une sorte de ne rien faire idéal et qu'on projette comme ça. Mais c'est aussi une réaction, encore une fois, à une frénésie de l'époque, à une valorisation aussi du travail comme absolu. Et la France, il y a quelque chose, même en France, quelque chose de particulier qui est que le statut social est d'abord et avant tout l'activité professionnelle. Et que dans plein d'autres pays, c'est pas le cas et qu'on peut passer... discuter avec un ami qui est argentin, qui me disait en Argentine, on peut faire un dîner et puis repartir sans savoir qui fait quoi, mais en ayant passé une excellente soirée, on a rencontré des gens très sympathiques. Donc en France, c'est très compliqué. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et cette structuration sociale fait que manifester, tenter un ne rien faire, tenter une disponibilité personnelle, cérébrale, physique, enfin de tout son être, être disponible en disant je ne fais rien, pas forcément définitivement, mais se mettre temporairement, faire ce pas de côté, est compliqué. Le manifester, le transformer en quelque chose de volontaire, manifester une sorte de, on va dire, d'écologie de son temps et de son ouverture d'esprit. Ce que je dis dans le livre, qui est quand même aussi un livre au second degré.
Bien sûr. On s'amuse beaucoup en vous lisant.
Évidemment. Mais il y a ça au fond, effectivement, le manifester pour manifester cette forme de douce mais réelle résistance.
David, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, David, allez-y.
Oui, moi je suis enseignant chercheur et pendant des années j'étais dans une espèce de frénésie d'activité absolument incessante et harassante, et tout d'un coup j'ai découvert le plaisir de rien faire. On m'avait un petit peu conseillé de ralentir ou d'arrêter, et donc l'idée c'était de me poser, d'être sur un lit sans prendre le journal, sans lire, et de juste éprouver le silence ou le rien. Ça m'arrive de le faire au bureau aussi, et j'ai trouvé que c'était extrêmement restabilisant, quoi, d'arrêter d'être dans cette course au projet. Alors, il y a quelques années, j'avais un peu découvert quelque chose de proche par l'assise Zazen, où je faisais une heure de métro pour aller dans un dojo et être assis sur un coussin devant un mur, et j'avais découvert le rien déjà, ou cette espèce de vide, et ça m'avait remis en place et refait beaucoup de bien. Et je crois que c'est ça qui s'intègre maintenant un peu dans ma vie pour ralentir l'activité. Quoi.
Mais du coup, vous l'avez gardé, ça, David. Désormais, en gros, quand on y touche, on ne le lâche plus.
Je l'ai
quand on touche
perdu,
au rien, on le garde.
Puis retrouvé.
Ouais. Ouais. Et aujourd'hui ?
Bah aujourd'hui, j'arrive à avoir ces moments de rien. Ça m'arrive aussi de le montrer. Effectivement, je trouve que c'est différent. Être seul, c'est soit ne rien faire, c'est juste vis-à-vis de son surmoi exploiteur et productiviste. Mais le montrer devant des gens, se montrer disponible pour l'échange ou être dans un bureau en ne faisant rien, c'est quelque chose aussi. C'est pas évident, mais intéressant d'exposer ça.
Merci beaucoup pour ce témoignage, David. Thomas Baumgartner, il y a une espèce de rien en pleine conscience, en fait. C'est ce que nous raconte David, là, dans son expérience à lui.
Non, mais même scientifiquement, on sait que le cerveau, quand il se met, pas forcément au repos, mais dans une forme d'inactivité, ça permet la mémoire, ça permet de la digestion, ça permet la digestion de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vu, de qui on a rencontré, de comprendre, d'être dans une forme de profondeur. Mm-hmm. On parlait de la surface des choses, de ces pushs sur les téléphones, de cette suractivité qui nous donne l'impression parfois de rester à la surface. Là, effectivement, ce moment de rien permet, mais organiquement, d'aller un peu plus en profondeur et de se rappeler.
Pour tous les deux, ce témoignage d'Henri Paul sur franceinter.fr, il nous dit qu'il est cadre à la Banque Postale. Il a dit qu'il a choisi de prendre 3 ans de disponibilité suite à une entrée d'argent exceptionnelle. Il y en a qui se seraient payés une grosse voiture ou une maison. Moi, j'ai choisi de me payer du temps libre à 54 ans. Il m'a fallu presque un an pour déculpabiliser. Mais voilà, maintenant, je pars sur les chemins avec mon sac à dos pendant 2 ou 3 mois et c'est le pied. On devrait tous et toutes pouvoir faire ce genre de choses et faire une pause dans nos carrières. Patrick Lemoine, d'abord, cette idée d'Henri Paul et l'idée de se dire, bah, j'ai les moyens. Alors encore une fois, on parlait de luxe, on y reviendra. C'est un luxe de pouvoir de ne rien faire. Mais c'est très disruptif, comme on dit aujourd'hui, de préférer passer 3 ans à ne rien faire plutôt que d'acheter une grosse bagnole, en gros.
Oui, c'est d'ailleurs pas toujours facile à expliquer à son entourage, ce genre d'attitude. Et je pense qu'effectivement, cet auditeur est très courageux. Vous savez, on habite en France, qui est le pays de tous les paradoxes. La France, c'est un pays révolutionnaire qui veut surtout que rien ne change. Je vous rappelle qu'en ce moment, la France est en grève, c'est-à-dire arrêter de travailler. Donc, être en grève, c'est pas forcément ne rien faire, mais quand même un peu, pour pouvoir ne rien faire plus tôt. Partir plutôt à la retraite, c'est-à-dire arrêter de travailler. Donc on voit qu'on est tout le temps dans cette dialectique, c'est bien de travailler parce que ça permet de gagner des sous et d'avoir une vie plus confortable, mais c'est quand même drôlement bien de ne pas travailler et quand même de gagner des sous sans être culpabilisé. Moi je suis très frappé de voir que la même personne dans la même situation de ne pas travailler, si elle est en vacances, elle est heureuse, si elle est au chômage, elle est malheureuse. Pourtant, objectivement, si j'étais martien, un chômeur et un vacancier, c'est pareil, au fond. Et pourtant, les chômeurs sont malheureux, sont souvent très déprimés, stressés, alors que les vacanciers, en principe, sont parfaitement épanouis. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit. Mmh. On revient encore à cette notion de liberté. Quand je suis en vacances, c'est parce que je suis libre d'être en vacances. Alors, si je suis au chômage, c'est que je suis pas libre d'être au chômage. Et si je veux partir plutôt à la retraite, je vais faire la grève ou non. Donc, on est tout le temps en bagarre pour cette liberté de ne rien faire.
Et Thomas Baumgartner, et c'est vrai, en lisant Henri Paul, mais en vous lisant aussi, au fond, parce que vous finissez effectivement sur le revenu universel, on se dit que ça marche qu'avec, si on veut le pousser jusqu'au bout, ça marche qu'avec au moins un minimum d'argent, de toute façon. Oui. Ça marche en n'ayant pas les contraintes du travail, mais qui peut, Patrick Lemoine nous l'expliquait à l'instant, ne pas avoir les contraintes du travail. C'est compliqué d'arriver à être dans une posture de rien.
C'est compliqué, ça s'anticipe, ça peut se décider, la société peut décider ça. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quelques années en Allemagne, les étudiants qui passaient le bac, traditionnellement, en fait, c'était non seulement accepté, mais plutôt valorisé. Prenez l'année des 18-19 ans, enfin juste après le bac, pour faire autre chose.
Une année de césure,
avant de se plonger dans des études. Une année de césure qui était une forme d'engagement vers les autres, vers la société, qui pouvait prendre plein de formes. Et effectivement, ce que dans mon livre, j'aborde un petit peu la question du revenu minimum de base, du revenu universel, à travers les propos d'Abdennour Bihar qui en avait fait un livre il y a quelques années, le philosophe, et qui notamment avait l'idée des maisons du temps libre, en disant voilà, les machines permettent de limiter le temps de travail, ça dégage du temps. Que faire de ce temps? On n'a pas l'habitude, on ne sait pas, on peut en avoir peur de ce temps libre. Ça veut dire se retourner vers soi, ça veut dire plus de temps avec les amis, la famille et avec la société. Que faire? Eh bien, imaginons des endroits où on réapprenne à utiliser ce temps libre, en profiter aussi, et peut-être transformer effectivement cette vision, ces regards de la société sur le temps libre et même son regard personnel.
Alors, on est très sérieux dans cette conversation, évidemment, parce que tout ça est vraiment très sérieux, mais je voudrais quand même dire qu'il y a des choses qui sont très très drôles dans votre bouquin. Vous convoquez Sénèque, c'est vrai, mais vous convoquez aussi Garfield, Gaston, le Big Lebowski. Y a plein de nos héros préférés qui sont des gros glandeurs, en fait. On adorerait tellement être Gaston dans une salle de rédac comme celle d'Inter, ici. C'est juste pas possible, c'est juste extrêmement plus compliqué.
La pop culture est pleine de personnages, effectivement, qui sinon ne font rien, en tout cas, s'octroient la maîtrise de leur temps, effectivement. Et Gaston, la gaffe, en fait partie.
Ça veut dire que c'est notre grand fantasme, en fait, à
peut-être
tous
bien.
Et à toutes.
Peut-être
non,
bien.
Pas. Ouais. Bonsoir Stan.
Oui.
Vous avez beaucoup patienté en écoutant. Pardon,
mais
Stan.
Je vous écoutais avec plaisir parce que c'est intéressant. Il y a des petites choses qu'on pourrait peut-être reprocher sur les reproches au protestantisme et tout ça. Moi, je viens d'une famille plutôt dans ce milieu-là. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, à 6 ans, moi, à l'école, on a été fâchés. On est dans les années 60, début 60. Mais, donc, on m'a considéré comme feignant. Bon, vous n'en avez pas encore dit ce mot-là. Feignant. Et en fin de compte, grâce à la famille, justement, je me suis réfugié dans le dessin pour essayer de... Puisque je voulais pas apprendre l'école, ça me plaisait pas. Bon. Et donc, l'effet s'est connu. À 6 ans, c'est pas très agréable. Une violence qui était insupportable. Et donc, j'ai appris à vivre feignant, c'est-à-dire à ne rien faire. À me promener, à regarder les arbres pousser. Et donc, quand je me suis mis au travail, j'étais hyper efficace. Pourquoi ? Parce qu'un feignant, il prend le temps de ne rien faire pour que, quand il doit faire, il fait le plus vite possible, le plus efficacement possible. Et là, c'est le meilleur au boulot.
Merci beaucoup, Stan. Merci pour votre témoignage. Thomas Baumgartner, il y a une vraie différence entre un feignant, un flemmard, un glandeur, ce sont des choses très différentes. C'est un peu ce que nous dit Stan. On peut être feignant, mais pour autant, quand on travaille, on travaille. Enfin, et du coup, peut-être qu'on est effectivement, c'est ce qu'il dit, plus efficace.
C'est-à-dire que le feignant ou le paresseux se pose la question de comment faire au mieux.
Pour retourner au rien.
En tout cas, c'est quelqu'un qui se pose la question encore une fois de sa propre disponibilité et d'une certaine manière de l'organisation de son temps. Donc qui parce qu'il a une tendance naturelle, parce qu'il est dans une forme de résistance aussi, cherche à optimiser ce temps-là. Effectivement, c'est un profil qu'on peut reconnaître.
Patrick Lemoine, est-ce que c'est un profil que vous aussi vous reconnaissez, un profil dans lequel vous êtes en empathie?
Je crois que les plus gros travailleurs sont effectivement les plus grands feignants, comme si on passait beaucoup de temps à bien bosser pour arriver au moindre effort. Parce que je crois quand même, une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est que la paresse permet l'intelligence. Parce qu'en fait, il faut, comme Alexandre de Bienheureux, il faut être très intelligent pour trouver des systèmes pour travailler le moins possible. Et ça, c'est une chose qui est montrée dans la nature. La plupart des animaux sont toujours pour la loi du moindre effort. Vous regarderez un chien, il prendra toujours le chemin le plus court. S'il peut avoir la nourriture sans se donner de mal, il va le faire. J'ai retrouvé une étude paléontologique que j'ai adorée. Ça se passe donc, je crois, en Afrique. C'est une tribu qui taille des silex. Et leurs silex, ils sont pas terribles. Ils sont moches. Bon, ils marchent, mais ils sont moches. Et pourquoi ? Parce qu'ils prennent des silex de mauvaise qualité. Alors que, un peu plus haut dans la montagne, assez loin, il faut une marche, c'est pénible, il y a d'excellents silex, mais c'était trop trop fatigant d'aller chercher des bons silex. Donc ils ont continué à faire leurs silex dans la préhistoire, parce que c'était des gros feignants, et comme ça ils ont bien réussi.
Les gros feignants de la préhistoire. Allez, une dernière question. Bonsoir Wilson, Claude.
Bonsoir.
Et on vous écoute.
Moi, ma philosophie, c'est si tu glandes bien, tu réussiras bien. Bon. Tout simplement, je passe trois quarts de mon temps à rien foutre, mais pourtant, le quart du temps que je consacre au boulot, c'est ce qui fait l'efficacité du travail que je fais.
Et vous penserez que vous seriez moins bon si vous travailliez plus, en gros ?
Je passe mon temps au lit, moi.
Ah, oui. Mais vous avez
de la
chance.
J'écris, je fous rien, je parle pas beaucoup. Et j'adore ça.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, pardon de vous poser la question, à l'instant avec Thomas, on disait qu'il faut...
Je suis dans une très grande agence de pub.
D'accord.
Le logo de la Ford K, c'est moi, des slogans intéressants, politiques, etc. Je donne dedans, je passe mon temps à créer du besoin pour les autres.
D'accord. Donc vous n'êtes pas un type bien, Wilson Claude. Hein ? Donc vous n'êtes pas quelqu'un de bien.
Mais je suis quelqu'un de génial. Au fait, j'apporte du contenu autant que les autres ont envie de passer.
Voilà, mais en tout cas, vous gérez votre temps, vous faites ce que vous voulez, et c'est ce qui vous donne le luxe de pouvoir le faire parfois depuis votre lit, vous avez de la chance en gros.
Mais c'est comme faire l'amour, vous savez, c'est donner du plaisir aux autres.
C'est vrai. Merci pour votre témoignage, Wilson. Si tu glandes bien, tu réussiras bien. Thomas Baumgartner, est-ce que vous en faites votre devise ou pas ?
Oui, non, ça peut être très bien, mais ça pose la question de comment exister alors pour soi-même et pour la société en dehors du travail. Je pense que ça, c'est une question éminemment contemporaine. Réussir à décaler ne serait-ce que légèrement une vision qui est parfois un peu univoque des choses, ça permet même de soulager, d'aérer une société, je pense.
Mais encore une fois, quel luxe, on parlait des gens, y compris ceux qui sont en grève aujourd'hui ou ailleurs, qui n'ont pas ce luxe-là. Nous sommes très rares à pouvoir l'avoir éventuellement. Non,
qu'est-ce que tout le monde peut y réfléchir. Après, effectivement, se l'offrir, c'est autre chose. Mais y penser.
Allez, merci beaucoup. Merci à tous pour vos nombreux appels. Il nous restait Christiane, tiens, d'Albi, que j'ai oublié au passage. Pardon, Christiane, mais je vais lire votre question puisque je suis là. Christiane est professeure et dans la marge d'un élève, elle avait écrit un jour pour appréciation des progrès à faire dans l'art de ne rien faire. Elle nous explique qu'elle était très sérieuse et qu'elle ne se sentait pas négatif. On va le garder comme ça. Merci à tous, vraiment, pour vos nombreux appels. Passez un très joyeux Noël.